Alors, je me porte.
Pas plus que les vivants, les morts n'appartiennent à personne. Georges Bataille et André Breton sont morts. Utiliser les écrits de l'un contre l'autre, privilégier leurs divergences plutôt que leurs points d'accord, ce serait accroître aujourd'hui parmi nous la division. Dans l'analyse que chacun est en droit de faire de l'ensemble des enjeux politiques de telle ou telle position adoptée par Breton et par Bataille à l'égard du mouvement historique, il nous semble en effet plus utile et plus éclairant de tenter de résoudre les contradictions qui les ont déchirées plutôt que de les envenimer artificiellement. Leurs exigences communes d'alors, par rapport auxquelles ils fondèrent ensemble en octobre 1935 et avec une soixantaine d'autres intellectuels les deux groupes de contre-attaque, le groupe SAD et le groupe MARA, recoupent quelques-unes de celles qui peuvent nous animer nous-mêmes. Mais il serait fallacieux d'y découvrir par contre des justifications a posteriori. La menace la plus immédiate et la plus criminelle de tous les temps, celle du nazisme et du fascisme, fait place aujourd'hui à des menaces multiples et dont les peuples du tiers-monde sont les principales victimes. Mais les résurgences du stalinisme, de même que celles du fascisme, n'ont pas cessé pour autant de jeter des ombres très inquiétantes sur notre avenir. Au milieu de tous ces dangers, ceux qui, à partir des pressentiments de Breton, comme des analyses les plus pertinentes de Bataille, se soucient de corriger les erreurs, les échecs et les crimes les plus flagrants qui ont dévié le cours du socialisme dans le monde, ceux qui continuent de vouloir malgré tout transformer le monde et changer la vie comme le voulait Breton, mais aussi sans doute comme l'espérait Bataille, peuvent s'interroger sur le sens final qu'il conviendrait de trouver à leur double entreprise. Comme le dit Bataille en 1953 dans un article de critique intitulé « Le communisme et le stalinisme », Lénine de toute façon ne connut que l'aube de l'interminable journée où se prolonge l'expérience révolutionnaire, et ses successeurs n'ont pas fait preuve d'un génie intellectuel égal au sien. Il ne faut pas oublier en effet que de l'inégale importance accordée aux théories de Trotsky, de Mao et du Che, que Bataille n'a pu connaître toutes, il ne s'ensuit pas forcément que nous soyons obligés, par souci de fidélité à Breton ou à Bataille, de nous en tenir aujourd'hui à tel ou tel de leurs jugements. En aucune manière, le génie de l'un et celui de l'autre ne saurait se confondre avec celui de l'infaillibilité. Ce qui importe, c'est l'expérience que chacun peut commencer avec la lecture de leurs textes. Cela même est la vie, non les discussions historiques que l'on pourrait entamer sans cette expérience. La question peut même se poser de savoir si le thème réel de la liaison ou de la divergence entre Breton et Bataille peut susciter aujourd'hui une question fondamentale. Quand Breton et Bataille étaient vivants, ils se situaient l'un par rapport à l'autre et en fonction du poids de leur passé commun sur le plan des choses et des événements que gouverne la nécessité. Il ne s'agit plus d'aucune manière de nous replacer volontairement sous le poids de cette même nécessité que rien ne nous autorise à partager. Bataille et Breton étant morts, nous sommes vis-à-vis de chacun d'eux détachés de cette nécessité qui leur était particulière, c'est-à-dire sur le plan de la liberté. On ne peut pas ignorer la nécessité violente qui leur était propre, et qui les a tour à tour dressés l'un contre l'autre et réconciliés, mais personne n'est habilité à la perpétuer. En quoi consiste cette liberté? Certainement à se tenir dans la visée de l'œuvre de chacun d'eux, visée qui la dépasse et qui rétrécit singulièrement les proportions de leur divergence. Elle consiste à accélérer le mouvement dont elle est porteuse plutôt qu'à jouer sur ce qui le freine. La violence des heurts se lie chez l'un comme chez l'autre à une volonté d'englober l'ensemble de toutes les activités humaines. C'est donc vers cette totalité qu'il faut tendre pour se tenir dans le fil de leurs exigences plutôt que d'ergoter sur les petits côtés de leur petite histoire personnelle. D'ailleurs, qu'est-ce qui de cette petite histoire peut nous intéresser vraiment aujourd'hui? Après avoir révélé dans le numéro 6 de la Révolution surréaliste en mars 26 les fatrasies de Philippe de Beaumanoir et de quelques autres qu'il traduit en français moderne, ce qui opposa d'abord violemment bataille à Breton en 1929 au moment du second manifeste, c'est non seulement la polarisation que ce dernier semble favoriser de tous les exclus du mouvement surréaliste, mais aussi l'éloge du bas, du gros orteil, contre l'éloge du haut, le refuge dans l'irréalité. À cet égard, cet éloge du matérialisme à travers le gros orteil est aussi simplificateur que l'idéalisme prêté à Breton, et nous ne saurions nous situer dans ce débat ni du côté de l'un ni du côté de l'autre. Une première réconciliation s'est produite vers la fin de l'année 35 au moment des préparatifs de l'organisation de contre-attaque. Ce qui les rapprochait, c'était la lutte contre le fascisme et l'état d'urgence créé par la tentative de coup d'état de 1934, mais des divergences concernant l'utilisation de méthodes de type fasciste contre le fascisme même, et surtout l'expression surfasciste créée par Jean Dautry, furent considérées par Breton comme des provocations intolérables et une cause de rupture. Celle-ci se produisit en mai 1936. L'imminence de la guerre, ou la guerre, encore une fois les rapprocha, et ceci de telle manière que Bataille se retrouva à côté de Breton dans un numéro de La Clé de 1939 et dans le catalogue de l'exposition internationale du surréalisme de 1947. Dès juillet 1946, dans le numéro 2 de Critique, Bataille écrivait « Sans doute depuis 20 ou 30 ans, personne davantage qu'André Breton ne manifeste le souci de donner jusqu'à des démarches infimes un sens engageant le sort de l'homme. » Et Breton, de son côté, dans les prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, en 1942, citèrent en premier le nom de Bataille parmi les esprits les plus lucides et les plus audacieux d'aujourd'hui. Ils ont tous les deux en commun d'avoir été l'objet de critiques virulentes ou d'accusations de mysticisme, d'idéalisme, d'occultisme ou d'irrationalisme de la part de ceux qui se réclamaient du rationalisme. L'un comme l'autre en sont défendus de manière suffisamment claire. L'accusation revient aujourd'hui curieusement concentrée autour du seul nom de Breton, pour dénoncer de surcroît l'empreinte hegelienne dont il n'aurait jamais pu se défaire. Accusation d'autant plus étrange quand elle est formulée par des défenseurs de Bataille, qu'elle passe alors sous silence le fait que la pensée de ce dernier est continuellement attachée au pas de la redécouverte de Hegel en France à partir des travaux et des cours de Kojève, le Hegel de la phénoménologie de l'esprit. André Breton m'invita lui-même à entendre avec lui une conférence prononcée par Georges Bataille au Collège de philosophie à la fin de 47 ou au début de 48, où Bataille démontra l'absurdité, alors à la mode, de l'amalgame qui tendait à faire de l'œuvre du Marquis de Sade une prémonition des camps de concentration nazis. Breton, interrogé, se refusa à faire le moindre commentaire aux paroles de Bataille, tant elles lui paraissaient irréfutables, et m'incita peu après à lire tous les écrits que Bataille publiait alors, parce qu'il leur accordait, me dit-il, la plus haute importance. Cela m'incita par la suite à aller entendre une conférence prononcée en février ou mars 48 dans la salle de géographie, où Bataille posait la question « Le surréalisme est-il une religion ?» Je ne sais si les textes de ces conférences ont été conservés, car elles furent, me semble-t-il, partiellement improvisées. Il y opposait, me semble-t-il, l'effusion poétique à l'effusion mystique, et tendait à montrer qu'en aucun cas le surréalisme était ni ne pouvait être une religion. En fait, Breton comme Bataille ont tenté de diverses manières, et selon un langage des expériences qui leur furent propres, d'abolir l'antinomie persistante entre idéalisme et matérialisme. Cette volonté d'abolir les antinomies ne demeure-t-elle pas pour nous la question fondamentale ? Et ne s'agirait-il pas d'en finir, une fois pour toutes, avec le manichéisme ? Pas plus que les vivants, les morts n'appartiennent à personne. Georges Bataille et André Breton sont morts. Utiliser les écrits de l'un contre l'autre, privilégier leurs divergences plutôt que leur point d'accord, ce serait accroître aujourd'hui parmi nous la division. Dans l'analyse que chacun est en droit de faire de l'ensemble des enjeux politiques de telle ou telle position adoptée par Breton et par Bataille à l'égard du mouvement historique, il nous semble en effet plus utile et plus éclairant de tenter de résoudre les contradictions qui les ont déchirées plutôt que de les envenimer artificiellement. Leurs exigences communes d'alors, par rapport auxquelles ils fondèrent ensemble en octobre 1935 et avec une soixantaine d'autres intellectuels les deux groupes de contre-attaque, le groupe SAD et le groupe MARA, recoupent quelques-unes de celles qui peuvent nous animer nous-mêmes. Mais il serait fallacieux d'y découvrir par contre des justifications a posteriori. La menace la plus immédiate et la plus criminelle de tous les temps, celle du nazisme et du fascisme, fait place aujourd'hui à des menaces multiples et dont les peuples du tiers-monde sont les principales victimes. Mais les résurgences du stalinisme, de même que celles du fascisme, n'ont pas cessé pour autant de jeter des ombres très inquiétantes sur notre avenir. Au milieu de tous ces dangers, ceux qui, à partir des pressentiments de Breton, comme des analyses les plus pertinentes de Bataille, se soucient de corriger les erreurs, les échecs et les crimes les plus flagrants qui ont dévié le cours du socialisme dans le monde, ceux qui continuent de vouloir malgré tout transformer le monde et changer la vie comme le voulait Breton, mais aussi sans doute comme l'espérait Bataille, peuvent s'interroger sur le sens final qu'il conviendrait de trouver à leur double entreprise. Comme le dit Bataille en 1953 dans un article de critique intitulé « Le communisme et le stalinisme », Lénine de toute façon ne connut que l'aube de l'interminable journée où se prolonge l'expérience révolutionnaire, et ses successeurs n'ont pas fait preuve d'un génie intellectuel égal au sien. Il ne faut pas oublier en effet que de l'inégale importance accordée aux théories de Trotsky, de Mao et du Che, que Bataille n'a pu connaître toutes, il ne s'ensuit pas forcément que nous soyons obligés, par souci de fidélité à Breton ou à Bataille, de nous en tenir aujourd'hui à tel ou tel de leurs jugements. En aucune manière, le génie de l'un et celui de l'autre ne saurait se confondre avec celui de l'infaillibilité. Ce qui importe, c'est l'expérience que chacun peut commencer avec la lecture de leurs textes. Cela même est la vie, non les discussions historiques que l'on pourrait entamer sans cette expérience. La question peut même se poser de savoir si le thème réel de la liaison ou de la divergence entre Breton et Bataille peut susciter aujourd'hui une question fondamentale. Quand Breton et Bataille étaient vivants, ils se situaient l'un par rapport à l'autre et en fonction du poids de leur passé commun, sur le plan des choses et des événements que gouverne la nécessité. Il ne s'agit plus d'aucune manière de nous replacer volontairement sous le poids de cette même nécessité que rien ne nous autorise à partager. Bataille et Breton étant morts, nous sommes vis-à-vis de chacun d'eux détachés de cette nécessité qui leur était particulière, c'est-à-dire sur le plan de la liberté. On ne peut pas ignorer la nécessité violente qui leur était propre et qui les a tour à tour dressés l'un contre l'autre et réconciliés, mais personne n'est habilité à la perpétuer. En quoi consiste cette liberté ? Certainement à se tenir dans la visée de l'œuvre de chacun d'eux, visée qui la dépasse et qui rétrécit singulièrement les proportions de leur divergence. Elle consiste à accélérer le mouvement dont elle est porteuse plutôt qu'à jouer sur ce qui le freine. La violence des heurts se lie chez l'un comme chez l'autre à une volonté d'englober l'ensemble de toutes les activités humaines. C'est donc vers cette totalité qu'il faut tendre pour se tenir dans le fil de leurs exigences plutôt que d'ergoter sur les petits côtés de leur petite histoire personnelle. D'ailleurs, qu'est-ce qui de cette petite histoire peut nous intéresser vraiment aujourd'hui ? Après avoir révélé dans le numéro 6 de la Révolution surréaliste en mars 26 les phatrasies de Philippe de Beaumanoir et de quelques autres qu'il traduit en français moderne, ce qui opposa d'abord violemment Bataille à Breton en 1929 au moment du second manifeste, c'est non seulement la polarisation que ce dernier semble favoriser de tous les exclus du mouvement surréaliste, mais aussi l'éloge du bas, du gros orteil contre l'éloge du haut, le refuge dans l'irréalité. À cet égard, cet éloge du matérialisme à travers le gros orteil est aussi simplificateur que l'idéalisme prêté à Breton, et nous ne saurions nous situer dans ce débat ni du côté de l'un ni du côté de l'autre. Une première réconciliation s'est produite vers la fin de l'année 35 au moment des préparatifs de l'organisation de contre-attaque. Ce qui les rapprochait, c'était la lutte contre le fascisme et l'état d'urgence créé par la tentative de coup d'État de 1934, mais des divergences concernant l'utilisation de méthodes de type fasciste contre le fascisme même, et surtout l'expression surfasciste créée par Jean Dautry, furent considérées par Breton comme des provocations intolérables et une cause de rupture. Celle-ci se produisit en mai 1936. L'imminence de la guerre, ou la guerre, encore une fois les rapprocha, et ceci de telle manière que Bataille se retrouva à côté de Breton dans un numéro de la Clé de 1939 et dans le catalogue de l'exposition internationale du surréalisme de 1947. Dès juillet 1946, dans le numéro 2 de Critique, Bataille écrivait « Sans doute depuis 20 ou 30 ans, personne davantage qu'André Breton ne manifeste le souci de donner jusqu'à des démarches infimes un sens engageant le sort de l'homme. » Et Breton, de son côté, dans les prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, en 1942, citèrent en premier le nom de Bataille parmi les esprits les plus lucides et les plus audacieux d'aujourd'hui. Ils ont tous les deux en commun d'avoir été l'objet de critiques virulentes ou d'accusations de mysticisme, d'idéalisme, d'occultisme ou d'irrationalisme de la part de ceux qui se réclamaient du rationalisme. L'un comme l'autre en sont défendus de manière suffisamment claire. L'accusation revient aujourd'hui curieusement concentrée autour du seul nom de Breton pour dénoncer de surcroît l'empreinte hegelienne dont il n'aurait jamais pu se défaire. Accusation d'autant plus étrange quand elle est formulée par des défenseurs de Bataille qu'elle passe alors sous silence le fait que la pensée de ce dernier est continuellement attachée au pas de la redécouverte de Hegel en France à partir des travaux et des cours de Kojève, le Hegel de la phénoménologie de l'esprit. André Breton m'invita lui-même à entendre avec lui une conférence prononcée par Georges Bataille au Collège de philosophie à la fin de 47 ou au début de 48, où Bataille démontra l'absurdité, alors à la mode, de l'amalgame qui tendait à faire de l'œuvre du marquis de Sade une prémonition des camps de concentration nazis. Breton, interrogé, se refusa à faire le moindre commentaire aux paroles de Bataille, tant elles lui paraissaient irréfutables, et m'incita peu après à lire tous les écrits que Bataille publiait alors, parce qu'il leur accordait, me dit-il, la plus haute importance. Cela m'incita par la suite à aller entendre une conférence prononcée en février ou mars 48 dans la salle de géographie, où Bataille posait la question « Le surréalisme est-il une religion ?» Je ne sais si les textes de ces conférences ont été conservés, car elles furent, me semble-t-il, partiellement improvisées. Il y opposait, me semble-t-il, l'effusion poétique à l'effusion mystique, et tendait à montrer qu'en aucun cas le surréalisme était, ni ne pouvait être, une religion. En fait, Breton comme Bataille ont tenté de diverses manières, et selon un langage des expériences qui leur furent propres, d'abolir l'antinomie persistante entre idéalisme et matérialisme. Cette volonté d'abolir les antinomies ne demeure-t-elle pas pour nous la question fondamentale? Et ne s'agirait-il pas d'en finir, une fois pour toutes, avec le manichéisme ?